les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le littoral portugais devrait former une province à part. Nous n'allons pas que longer le littoral portugais, mais aussi visiter les terres, même si, selon le poète Alfonso Duarte, il n'y a que la mer dans mon pays, il n'y a pas de terre qui nourrit, c'est le rythme des vagues qui m'a bercé, il n'y a que la mer dans mon pays, et c'est elle qui le dit. Le coq, le cœur, la croix, la décoration des façades de maisons, les azuleros, qui doivent jouer avec l'architecture, en jaune, bleu, violet, marron, ces azuleros qui ne doivent surtout pas être vus comme des pièces de musée. La matinée des autres, première diffusion sur France Culture le 10 janvier 1989.
La matinée des autres.
Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com gente. Fica bem esta franqueza, fica bem. Desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente.
Un automne portugais. Une émission de Jacqueline Kellen. À Barcelos avec Idolina Neves. À Viana avec António Cândido. À Porto avec Bárbara Pinto. À Aveiro avec Diamantino Dias et Nelson Correia Borges. À Coimbra, Maria Antónia Cardoso, José Manuel Pereira de Oliveira et Pedro Dias. Ainsi que Nuno Jardim Fernandes et Virgílio Gomes.
Mon regard est net comme un tournesol. J'ai l'habitude de marcher au long des routes, regardant à droite et à gauche, et parfois regardant en arrière. Et ce que je vois à chaque moment, c'est ce que jamais avant je n'avais vu. Et je sais très bien distinguer cela. Je sais posséder l'étonnement essentiel qu'un enfant posséderait si à sa naissance il s'apercevait réellement qu'il est né. Je me sens naître à chaque instant pour l'éternelle nouveauté du monde.
Alegria, alegria, os molhos por causa de ti, choram os meus olhos. Alecrim, alecrim, doirado que nasce no monte sem ser semeado. Ai, meu amor, quem te disse a ti que a flor do monte era o alecrim? Ai, meu amor, quem te disse a ti que a flor do monte era o alecrim?
Barcelos.
Thank you. lá por toda a rosa desse mesmo, na catedral, na catedral.
A lenda, segundo conta a lenda, os habitantes do burgo andavam bastante alarmados por causa de um...
Selon la légende, les habitants de Barcelos s'étaient très affolés car un crime avait été commis dans les parages et on ne connaissait pas le coupable. Un pèlerin qui allait à Saint-Jacques-de-Compostelle s'est arrêté à Barcelos et on a voulu l'inculper, malgré son cri d'innocence. Il fut condamné à la pendaison. Avant d'être pendu, il a demandé à être reçu par le juge afin de proclamer une fois de plus son innocence. Il rendit visite au juge qui recevait à ce moment quelques amis chez lui. Ils étaient tous assis autour de la table devant un beau et appétissant coq rôti. Le condamné cria son innocence et dit que même ce coq-là chanterait pour prouver son innocence. Personne ne l'a cru. Mais le coq rôti ressuscita et chanta au moment où il montait sur l'échafaud. Tout le monde se dirigea alors vers la place publique et le pèlerin fut sauvé. Après avoir continué son pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, il retourna à Barcelos où il fit construire un monument en signe de remerciement, une statue à la Vierge. À partir de cette légende, on exploita l'artisanat qui représente le coq, qui d'ailleurs est devenu l'emblème non seulement de Barcelos, mais du Portugal tout entier. Sur la Costa Verde, Viana.
Nous sommes exactement dans l'ancien hôpital de la ville de Viana. C'est un bâtiment du 15e siècle et qui était un hôpital pour les gens qui faisaient le chemin entre Santiago de Compostela et Fraga, les pèlerins. Et comme vous pouvez voir, nous avons ici une exhibition des costumes typiques. Une chose très importante pour nous, surtout si on pense à les fêtes populaires pendant toute l'année, on peut le dire, mais surtout en été. On vient de finir les grandes fêtes avec les fêtes de Ponte de Lima, Freiras Novas, où vous pouvez toujours voir les gens habillés avec ces costumes. Vous savez, les gens ici au nord du Portugal, ils travaillent très dur. Ce sont surtout les femmes qui travaillent. Il a commencé à changer un peu avec l'immigration, mais de toute façon, sont surtout dans la campagne des femmes qui travaillent. Donc les fêtes sont une façon de pouvoir s'amuser. Donc même au-delà de l'aspect religieux, aussi il y a l'aspect profane. Surtout la nuit, c'est la plus bonne chose pour eux parce qu'ils peuvent chanter et danser, toujours accompagnés par des gens qui travaillent dans les champs, mais qui savent quand même chanter et jouer de la guitare ou de l'accordéon, de la concertine, un instrument très utilisé ici au nord du Portugal. C'est comme l'accordéon, mais un peu petit et où les notes sont plus graves.
À
avant, les gens étaient tous habillés avec ces costumes. À ce moment-là, ça commence à changer parce que les costumes, ils sont tous faits à la main par les dames qui s'habillent avec les costumes. À ce moment-là, nous pouvons quand même trouver des femmes qui sont habillées pas avec le costume complet, mais avec quelques parties du costume, comme la jupe par exemple, ou la chemise. De toute façon, le foulard, il est toujours utilisé par les femmes, et aussi les chemises de travail des hommes, ils sont aussi quand même utilisés. Il y a un costume qui est utilisé pour les gens qui travaillent en recherchant des plantes sur la mer. Ça se passe sur la côte, et surtout à Apulia et à Fif, deux petits villages juste à côté, où les gens recherchent les plantes, des algues sur la mer, utilisent le costume que vous pouvez voir là. Ces algues sont utilisées pour aduber les terres. Au-delà de ça, il y a trois costumes très connus ici sur la région, et lesquels on doit quand même expliquer. Ce sont les costumes de travail, sur les dames que vous pouvez voir là-bas. C'est pas le vert, mais ça, c'est un costume de travail pour le dimanche seulement, pour aller à la fontaine, pour faire l'élevage des animaux quand même, et aussi pour sortir avec le fiancé. Ça se passait et ça se passe un peu surtout à la campagne toujours aujourd'hui. Il y a après un autre costume, le costume de luxe. C'est le costume vert, par exemple, ou rouge, qui est là. C'est le costume avec lequel les gens vont à les fêtes populaires. Et après, un autre costume très important, le costume de majordome et aussi de mariage. Le costume de majordome, le costume que vous pouvez voir là, le noir, il appartient à les femmes qui organisent les fêtes populaires. Parce qu'ici, ce sont toujours les femmes qui organisent aussi les fêtes populaires. Les hommes, ils sont seulement pour recevoir l'argent, mais elles organisent quand même la fête. Donc, dans le jour de la procession, surtout, elles portent ce costume et elles défilent dans le cortège ou dans la procession avec ce costume. Elles emmènent toujours une bougie votive au sein de la fête qui doit être allumée. Les femmes qui portaient les bougies votives, elles devaient être vierges. Et par exemple, si la bougie s'étendait pendant le parcours, tout le monde disait qu'elle n'était pas vierge. Il y a après le costume de mariage, comme vous pouvez voir, il est en noir. C'est une tradition ici dans la région. Normalement, c'est pas très facile de trouver un costume de mariage en noir, parce que c'était aussi le costume avec lequel elles s'habillaient quand elles étaient mortes. Donc, ils sont disparus à cause de ça.
On les porte deux fois dans sa vie, alors.
Deux fois dans sa vie, c'est ça. Quand elles se marient, quand elles étaient mortes. Oui, c'est ça.
Il y a des motifs qui reviennent souvent, le cœur et la croix.
Parce que le cœur, il représente l'amour. Les gens du Nord, ils sont toujours amoureux. On dit même que Viana do Castelo, par exemple, Viana est amour. Le symbole qu'on a pris aussi pour la région du Alto Minho, c'est le cœur. Vous pouvez le trouver dans tous les cadeaux que nous avons, par exemple. Et la croix, parce que le peuple ici au nord du Portugal, il est surtout très religieux.
Premier jour de janvier, premier jour de l'été. Fleur de janvier, jamais n'a rempli le cellier. Si pleure la chandeleur, hiver va partir. Si rit la chandeleur, hiver va venir. Qui en mars sa vigne ne taille, de sa vendange ne tire maille. Au début et à la fin, avril est souvent vilain. Petit poisson d'avril, lâche-le et qu'il file. Petite pluie à l'ascension, petite paille donne pain bon. En mai, à Kinami, sa chemise suffit. Dicton portugais.
Alors ici, on se promène, c'est la basse ville, ce qu'on appelle
promené exactement sur le quartier le plus ancien de Vienna. Comme vous pouvez voir, vous avez les petites rues avec les maisons les plus anciennes de Vienna, de Castello. C'est une partie du bourg de Vienna qui a été entourée aussi par des murailles. Parce que surtout sur la côte, vous pouvez trouver toujours des murailles et des forts qui ont été faits exactement pour faire la...
Pour défendre
les sources de piraterie que nous avons eues ici sur la région, surtout sur la côte. Aussi, Vienna de Castello a été entourée par des murailles. À ce moment-là, il n'y a qu'une petite partie où nous pouvons les voir. De toute façon, ce quartier où nous nous sommes promenés faisait partie du quartier qui a été entouré par des murailles.
Et l'église devant laquelle nous sommes passés
Elle est devenue la cathédrale, même si ce n'était pas la première à Vienna. La première église à Vienna, c'était exactement où a commencé la ville de Vienna, c'est un peu plus loin. Mais celle-là, elle est devenue la cathédrale parce que exactement, elle est la plus grande qu'on a sur la ville.
J'aime bien parce qu'il est, à peu près 7h et on commence à sentir des odeurs merveilleuses. Mais on s'est interrompu par un petit porto, on doit l'avouer. Et vous nous racontiez à ce moment-là quelques plats pittoresques, mais on n'avait pas la traduction.
Enfin, on dit qu'on a ici au nord du Portugal, ou même au Portugal, 365 façons de cuisiner la morue. La morue, elle est devenue très fameuse exactement à cause des gens qui sont partis pour la mer du Nord pour le pêcher. Nous avons ici, surtout à Vienna, dans les restaurants, le serrabulho, un plat très typique qui est fait avec de la viande de porc, mélangé avec du sang de porc, et ça, les gens ils ne trouvent pas très bien, mais enfin, la saveur, elle est toujours bien, surtout si on pense qu'il y a des choses très très bonnes là-dedans. Il y a des saucissons qui sont faits chez nous, accompagnés par des pommes de terre faites au four, et enfin, il y a aussi d'autres choses, du jambon qu'on accompagne toujours avec ça. C'est un plat assez agréable et surtout très important sur l'aspect gastronomique de la région. La Costa Verde, Côte Verte, c'est une région qui commence exactement à Espinho, juste après la ville de Porto, et qui va juste à Melgaço. Costa Verde, c'est la côte, et aussi un peu l'intérieur. La Côte Verte, Costa Verde, ça veut dire tout ce qui est vert, le paysage qui est vert.
Alors, au-dessus de Vienna, il y a une colline, et il y a une cathédrale, c'est une cathédrale ou une église Santa Lucia?
Oui, c'est une église, si vous voulez. On appelle l'église de Santa Lucia. Et c'est exactement dans un endroit qui est surtout joli au mois de février, mars et avril. Il y a surtout les mimosas, la fleur avec une couleur jaune qui donne un aspect très joli au paysage. Justement pour ça, on a profité de la beauté du paysage. On a commencé il y a longtemps, en 1967. On a commencé avec une fête ici sur la ville de Vienna, maintenant et par toute la région, qu'on appelle de fête des mimosas.
Mais alors pourquoi Sainte-Lucie? Sainte-Lucie est venue ici, c'est une sainte italienne.
Oui.
Vous l'avez détournée?
vous savez, l'aspect religieux ici, parfois, il est très dur à expliquer. Surtout si on tente d'expliquer la quantité d'églises et surtout des saints que nous avons ici sur la région. La sainte qui est commencée dans cette église, c'était exactement la sainte Ulay. Après, les gens, surtout de Vienna, ils ont trouvé la sainte un peu impudique. Ça, c'est une des explications qu'ils m'ont donnée. Et ils ont changé. Donc, ils ont pensé la sainte de Santa Lucia, la sainte de la lumière, parce qu'à Santa Lucia, surtout en été, vous avez beaucoup de lumière.
Alors on prie Sainte Lucie pour c'est la patronne qui guérit les maux de pour c'est pour les yeux.
Pour les yeux, oui. Il y a surtout les ex-photos que vous pouvez y voir. Ce sont surtout des yeux en cire, soit-il en cire ou en argent. Oui, parfois il y a des gens très riches qui offrent des yeux en argent parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a eu des problèmes dans les yeux, ils ont fait des promesses et ils sont devenus bien. Et après, comme ils ont fait des promesses, ils ont offert les yeux.
C'est étonnant parce que dans d'autres, on a visité, on a vu dans la cathédrale de Braga, alors on a vu, c'était en plastique je crois, donc je pense que les malades étaient un peu moins riches, il y avait une main en plastique, il y avait un cœur, il y avait des têtes.
Pas en plastique, c'est toujours en cire.
Ah c'est en cire, alors qu'est-ce que ça signifie ?
Ça signifie exactement la même chose. Et comme vous savez certainement, les saints, normalement, ils peuvent être les patronnes de quelque chose, mais de toute façon, ce sont des saintes. Et parfois, on trouve des choses qui sont pas vraiment d'accord avec le saint patron qu'on trouve dans l'église. Et si on trouve parfois des pieds, des mains et des bras, ce sera peut-être parce que les gens qui ont fait les promesses, ils habitent très près de l'église ou du centre où ils ont fait la promesse. Parfois, vous pouvez voir même une sculpture d'un corps complet ou alors les bougies très longues qui représentent normalement la longueur, l'auteur, des gens. Enfin, si vous étudiez un peu le point de vue social de cette région, vous pouvez le comprendre certainement parce qu'il n'y a pas trop de choses pour se distraire, surtout si elles n'ont pas des fêtes populaires ou quelque chose comme ça. Et ils travaillent tout simplement et dans les week-ends ou même pendant toute la semaine, elles vont à la messe, elles écoutent les prêtres et tout ça, surtout à la campagne. Elles sont vraiment, vraiment religieuses. Ils sont confiantes de leurs pensées et surtout à cause des succès qu'ils ont eu à faire des promesses qu'ils comprennent toujours et qu'ils disent toujours sont les saintes qui leur font.
En juin, Faucille au point. Juin, juillet, août, dame, je ne suis pas à vous. De ton mari rêves-tu le trépas ? De choux, en nous, fais-lui un bon repas. Septembre, ou bien sèche les sources, ou emporte les ponts. À la Saint-Martin, goûte ton vin. De la Toussaint à la Noël, bon sera de pleuvoir et mieux de neiger. À la Saint-Nicolas, la neige sur tes pas. Tout vient en son temps et les navets durant l'Avent. Dicton portugais.
Porto.
Les caves sont à Vila Nova de Gaia, c'est en face de Porto. Et cette région, c'est la région vieille de Porto. Et c'est ici que se situent toutes les caves. Il y a plus ou moins 23. et plus ou moins 15 sont pas portugaises, les autres sont portugaises. Et elles sont situées ici, à Porto, parce que je pense que les caves sont près de la mer et c'est plus facile pour l'exportation.
Le transport, puisque là c'est le Douro qui passe.
Bah, oui, c'est Douro.
Le Douro. Donc avant ça se faisait par transport, bateau. Par ces bateaux que vous avez appelés.
Rebelos. Voilà. Ce sont des bateaux typiques qui aujourd'hui sont seulement utilisés en régate. Parce que chaque cave a un bateau et normalement le 24 juin ils font des courses par la rivière. C'est seulement pour maintenir typique. Seulement ça. Parce qu'aujourd'hui le transport est fait en camion. Du Douro jusqu'ici. Et le vin arrive, déjà liquide, c'est seulement pour vieillir. Donc les caves sont seulement utilisées pour l'envieillissement du vin, le traitement du vin et la mise en bouteille. Tout le reste est fait dans la région.
Alors donc là, on est en face de Porto et puis il y a un magnifique pont, je crois, il est très connu.
Oui, il était construit ou désigné par Eiffel.
Il s'appelle
Dans Louis.
Avec circulation en haut, circulation en bas.
Oui, c'est le trafic, il est très grand. Mais cette partie, elle est très connue parce que c'est la partie vieille de Porto.
Humus de nos vertus et de nos défauts domestiques, ce Porto du Portugal et non de l'Europe ou du monde, si on l'intègre comme moi dans une vision spectrale de la patrie, on doit aussi le sentir bercé forcément par la vieille et diligente chanson que font les sabots battant le granit. Or, une vieille et diligente chanson de sabots battant le granit, c'est ça, le Portugal. Ce sont les rochers de la Serra da Estrela, fournissant le seigle. Ceux du Barroso, fournissant la pomme de terre. Et ceux de Jerez, le maïs. C'est une existence rude, arraché à l'inféconde terre d'un arpent. Miguel Torga.
La région, elle se situe à peu près 100 km d'ici et va jusqu'à la frontière espagnole. Ici, c'est Espagne, ici, c'est la région d'Oro. Et cette région-là, elle a été la première région de vin à être délimitée en 1756. La région, elle a des caractéristiques très personnelles. Le terrain est très schisteux, très incliné, avec des plantations faites en petite terrasse. Le climat, il est très froid en hiver et très chaud en été. Et la région, elle est aussi protégée des vins maritimes. Et la vendange a lieu normalement à la fin de septembre, début d'octobre. Et après avoir délimité le niveau de l'alcool, les raisins sont pesés, craisés et ensuite conduits aux cuves de haute vinification. Et la principale particularité technique pour faire les vins du Porto, c'est d'additionner pendant la fermentation eau de vie vinique à 77 degrés. Comme ça, quand on met l'eau de vie vinique, la fermentation arrête immédiatement et va monter le degré de l'alcool par 19-20 et va maintenir en même temps la douceur naturelle des raisins. C'est pour ça que les vins du Porto sont très doux et c'est pour ça que les vins du Porto ont normalement 19-20 degrés. Nous avons dans la région des raisins blancs pour faire les vins du Porto blanc et des raisins rouges pour faire les vins du Porto rouge. Nous avons aussi trois qualités des vins du Porto, les vins coupés, les vins millésimés et les vins vintage. Bon, au passé, les vins étaient transportés de la région délimitée jusqu'ici, un bateau rebelge, ce bateau que vous voyez dans la rivière. Et aujourd'hui, ce transport est fait en camion-citerne. Quand le vin arrive, il est immédiatement mis dans ses fûts et plusieurs pour vieillir. Et le minimum de vieillissement pour un vin du Porto, c'est toujours 3 ans. Mais n'a pas de maximum parce qu'un vin peut vieillir un fût 10, 20, 30, 40 ou 50 ans. Après le vieillissement, et seulement pour les vins coupés, on les met dans ces cuves pendant une ou deux semaines pour couper le vin, pour mélanger le vin. On appelle en portugais marier le vin. Et les cuves sont seulement pour les vins coupés parce que les vins millésimés et les vins vintage qui sont des vins purs, ce vin-là, de l'envieillissement, les vins vont directement à la mise en bouteille. Bon, comme je vous ai dit, nous avons trois types de vins. Les vins coupés, les vins millésimés et les vins vintage.
Les vins coupés sont des vins très jeunes qui viennent de beaucoup de récoltes, de beaucoup de vins. Comme ça, dans une bouteille, il n'y a jamais une date. Normalement, les vins coupés vieillissent fût seulement 3, 4, 5 ans. Ce sont les plus courants. Dans le vin blanc, nous avons le doux, le demi-sec, le très sec. Normalement, on le boit comme apéritif très frais. Ce côté-là, vous avez les vins rouges et ces quatre sont aussi les vins coupés. Le Fine Downy 6 ans, le Fine Ruby 3, le Old Friends 4 et le 10 ans 10 ans, mais tous les quatre sont coupés. Comme vous pouvez voir, il n'y a jamais une date dans une bouteille. Donc, si vous voyez une bouteille de vin du Porto sans date, c'est un vin coupé. Ça, c'est le millésimé, il n'est pas coupé. C'est un vin pur qui vient d'une seule récolte. Dans la bouteille, il y a toujours deux dates. La date de la récolte et la date de la mise en bouteille. Et les vins millésimés vieillent toujours et le minimum 7 ans en feu, pas moins. À la fin, on a les vintages qui viennent des meilleurs raisins de la région. Le vintage vieillit 2 ans en feu, après il est embouteillé. Mais c'est l'unique qui continue à vivre dans la bouteille. Il faut envoyer un peu de vin pour l'Institut du vin de Porto et seulement l'Institut peut dire si ce vin un peu ou non être un vintage.
Un gamin arrose les plantes grimpantes d'une fenêtre bleue. Et avec la pomme de son arrosoir, on dirait qu'il vanne ou fait bruner des étoiles. Et la poussière qu'il soulève semble des nuages qu'il encense. Du panier montent des émanations saines. J'entends un canari, quel gazouillis d'enfant. Des ménages s'affairent derrière les jalousies. Et tout au long des façades, le soleil étire ses rayons d'orange distillés. Hardi et pittoresque dans ses cotonnades, le buste droit, les poings sur les hanches, avec une misère joyeuse qui me stimule, maigre, toute chétive, la vendeuse clame ses choux tout rebondis, ses larges choux. Et comme les grosses jambes d'un géant, sans tronc, mais athlétique et entière, sur la pauvre marcheuse lourde pèse, posée sur la verdure abondante et rustique, deux frugales cabasses jaunes. Cesario Verde.
Aveiro.
Il n'y a que la mer dans mon pays. Il n'y a pas de terre qui nourrit. La douce illusion de fruits semblables au soleil me fait mourir de faim. Une vague, autre vague, le rythme des vagues m'a bercé. Il n'y a que la mer dans mon pays. Et c'est elle qui le dit. C'est elle que je suis. Afonso Duarte.
Assomar no meu país. E eu à préparer les marais salins au mois d'avril. Après, il faut 2 mois pour préparer les marais salins pour commencer à produire le sel. Mais cette année, malheureusement, au mois de juillet, il a énormément plu au Portugal. Alors, la pluie a détruit tout le travail de préparation des marais salins et l'eau des réservoirs est devenue très, très douce. Alors, il a fallu recommencer et c'est seulement au mois d'août et au mois de septembre qu'on a produit du sel. Ça, c'est quelque chose de très mauvais pour les personnes qui travaillent dans les marais salins. Mais bien sûr, il faut savoir qu'à ce moment, cette activité n'est pas très importante du point de vue économique. Hein, parce qu'on a encore plus d'une centaine de marais salins ici sur la lagune. Cette année, je pense qu'on ne va pas arriver aux 20 000 tonnes de sel. On va faire beaucoup moins que ça. Mais de quelque façon, il y a encore quelques centaines de personnes qui vivent de ça. Alors c'est une activité qui va disparaître dans quelques années, c'est presque sûr, parce que du point de vue économique, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant. Alors c'est une histoire un peu compliquée. Les techniques sont les mêmes qu'on utilisait au temps des Arabes, au 8e siècle, si vous voulez, 9e siècle. Même les instruments de travail, les techniques sont exactement les mêmes, vraiment artisanales. Mais pendant des années, la relation entre les propriétaires et les travailleurs, c'était vraiment médiéval. La production du sel ici dans la région est assez chère parce qu'il faut préparer les marais salins toutes les années. Et à ce moment, c'est plus intéressant de peut-être importer le sel que de le produire dans la région. Et c'est pourquoi la plupart des marais salins est déjà disparu. C'est le port Mauritier, le plus important du Portugal. Il y a déjà des centaines d'années qu'on fait sortir des bateaux des Mauritiers pour les mers du Nord, pour la pêche, la morue. Et c'est le port Mauritier le plus important du Portugal. Nous avons, à ce moment, je ne sais pas, mais à l'époque, la plus importante, la pêche, la morue, nous avions plus de 50% des Mauritiers portugais. Et il y a quelques années, on avait 35 Mauritiers. À ce moment, je ne sais pas, parce qu'on a des problèmes à cause des quotas de pêche. On ne peut pas pêcher pendant n'importe quelle quantité de poissons. Et à cause aussi de comment est-ce qu'on appelle ça, les eaux territoriales.
C'est très limité.
Alors, on a des quotas qu'on ne peut pas dépasser et c'est pourquoi qu'à ce moment, on est en train d'adapter les anciens mauritiers pour pêcher d'autres sortes de poissons. Mais de quelque façon, ça, c'est toujours une activité très importante dans la région. À ce moment, il n'y a que ces étalages, mais il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, tout ça était des étalages pour sécher la morue. Alors c'était, des centaines de femmes. Avec des chariots ou des brouettes, on transportait la morue, on la mettait à sécher, on la tournait. Après, il va pleuvoir, alors c'était en vitesse qu'il fallait remettre tout le poisson à l'intérieur. Et c'était
alors là, ils sont séchés à plat, donc c'est à l'horizontale.
Oui, comme ça, oui. Ici, on sèche toujours comme ça.
À plat.
Oui.
C'est impressionnant, c'est pourquoi... la première fois que je vois des grands champs, des champs de poissons. Maintenant, je dirais qu'on cultive la morue. Alors. C'est ça, non?
C'est une très belle image. La morue, à ce moment, c'est quelque chose de très cher au Portugal. Il y a quelques années, c'était le poisson des pauvres, et maintenant, c'est le poisson des riches, parce qu'il y a beaucoup moins de poissons, à cause de la réduction des quotas de pêche. Parce que, vous savez, il y a une trentaine d'années, le poulet était le plat des riches. Et on disait même, il y avait un proverbe au Portugal, on disait, quand le pauvre mange du poulet, un des deux est malade. Et à présent, c'est le plat des pauvres, hein, parce qu'à cause de la technique, on élève très facilement des poulets. Mm-hmm.
Eh bien, la route de la lumière se situe dans une région du nord, nord-ouest du Portugal. Il y a une partie qui est au bord de la mer. Il y a aussi un arrière-pays qui est tout à fait différent. Alors, nous avons la région, la mer, la lagune, la plaine et après la montagne. On peut commencer à parler de la vocation maritime de la ville, surtout après la lagune, parce que la lagune est une chose assez récente.
C'est là qu'on trouve les algues, les fameuses algues.
Bien sûr, alors les algues, le goémon, on l'utilise pour fertiliser les champs. Ça, c'est une chose qu'on fait déjà il y a des centaines d'années. On utilise des bateaux très typiques de la région, les moulissages, dont le nom vient du nom des algues. Ici dans la région, on appelle aux algues, on appelle moulis, et de là vient le nom de moulissage. Moulissage, c'est le nom du bateau et c'est aussi le nom de l'homme qui travaille dans le bateau. Alors, on ramasse ces algues et on les utilise pour fertiliser les champs. Et parfois, maintenant je pense qu'on ne le fait plus, mais parfois on mélangeait aussi des crabes pour enrichir l'engrais. Et c'est avec cet engrais qu'on a transformé des sols très pauvres, parce qu'il n'y avait que du sable. C'était une région qui avait été récupérée à la mer dans des terrains de culture très, très, très fertiles. À partir d'un moment donné, on a commencé à utiliser des engrais chimiques. Et bien sûr, cela a provoqué une diminution des bateaux, des ramasseurs d'algues. Mais ce n'est pas la seule raison, il y en a plusieurs. C'est très difficile de trouver un effet provoqué par une seule cause. Et je peux vous dire, et je peux vous citer des chiffres. Par exemple, en 1889, il y avait 1380 bateaux sur la lagune. En 1935, il y en avait 1008 bateaux qui ramassait des algues. En 1949, 794. En 1959, et cette date est très importante, il y avait encore 540 bateaux. Et en 1969, il n'y avait que 164 bateaux. Alors, cette dizaine d'années entre 59 et 69 coïncide avec la date des migrations pour l'Europe. Et cela a aussi fait tomber en flèche le numéro des bateaux. Alors, les bateaux, ils sont vraiment très beaux et il faut les voir, et c'est très difficile quand on parle d'écrire la beauté. Ce sont des bateaux de 15 mètres et demi de longueur, d'un mètre et demi de bouche, et le tirant d'eau est très faible. Il n'a que, après la cargaison, il n'a que 40 cm. Alors, ils sont très bien adaptés pour leur travail. Les bords sont très bas, ce qui permet de ramasser les algues très facilement. Et comment est-ce qu'on ramasse les algues? Alors, on emploie des râteaux qu'on fixe au bord du bateau. Les râteaux, parce que les bateaux avancent à la voile ou à la perche, mais quand il y a du vent, et il y a presque toujours du vent dans la région, les bateaux avancent à la voile. Les râteaux ratent au fond de la lagune, où sont les algues, et on les ramasse et on les met à l'intérieur du bateau. Maintenant, on ramasse en principe un bateau chargé, il peut avoir 3-4 tonnes d'algues. Mais j'ai déjà vu des bateaux avec 6 tonnes d'algues. À ce moment-là, le bord du bateau est submergé 50 cm. Mais comme les algues, si on les ramasse du fond de la lagune, elles sont assez épaisses pour ne pas permettre l'entrée de l'eau à l'intérieur du bateau. Une autre caractéristique de ces bateaux sont les pontures. C'est la partie esthétique du bateau. Alors, il y a 4 panneaux, des deux côtés de la proue et des deux côtés de la poupe. Des panneaux très très beaux. Les peintures sont très très naïves. Dans ces panneaux, il y a des frises où il y a des éléments très importants et qui symbolisent la double activité des hommes qui ramassent des algues. Parce qu'ils sont des hommes de la lagune, parce qu'ils ramassent des algues dans la lagune, mais ils sont aussi des paysans parce qu'ils travaillent dans les champs. Alors il y a des fleurs, ce sont les symboles agricoles, et il y a aussi des éléments maritimes, des cordes, des coquillages et encore d'autres choses.
Le littoral portugais devrait former une province à part.
sveltes, allègres et fraîches, toutes de sable et d'écume. Du moins est-ce ainsi que je le vois depuis toujours, une longue et pâle frange de dentelle ourlant le bariolage de la couverture lusitaine. De l'avoir découpé en tranches pour satisfaire la gourmandise du Minho, de la Beira, de l'Extremadura, de l'Alentejo et de l'Algarve, on a rompu l'unité d'un sourire qui va du nord au sud du Portugal, sans participer des humeurs diverses, caractérisant les régions auxquelles, par obligation administrative, il appartient. De l'estuaire du Minho jusqu'à l'embouchure du Guadiane, toujours c'est l'Atlantique et la même plage. Qu'un caillou s'interpose, ici ou là, et c'est exprès qu'il fut placé pour divertir la mer et lui donner un son. L'Atlantique toujours, la plage et les pêcheurs. De chaque poupe, bien sûr, on voit un Portugal différent, selon la latitude. Vert et enjoué tout en haut, salin et limoneux au centre, accueillant et mangeur de carou tout en bas. Paysans en blanchet et chapeaux cirés ramassant le varech à Apulia, sauniers structurant la blancheur à Aveiro, maraîchers jardinant à Caneças, journaliers en gilet de peau labourant à Odmira, morts cueillant des figues à Lolé. La réalité qui rassemble la grande famille littorale, c'est la force de la marée qui permet ou ne permet pas à la barque de s'ancrer au port du Salut. Un port qui est toujours la même plage immense, stérile et fustigée, où les femmes, Cassandres éternellement en deuil, prient et prophétisent. Miguel Torga.
Nous avons des plages d'Atlantique, et il y a tout ce littoral de la région. C'est une plage qui commence à Espinho et qui va jusqu'à Figueira da Foz, là fait 150 km, et c'est toujours la même plage. Et nous avons aussi des petites plages du côté de la lagune, dont l'eau est beaucoup plus chaude et beaucoup plus calme, très indiquée pour les enfants.
Alors on a vu, on est passé tout à l'heure sur le long d'une plage, et il y avait de ravissantes petites maisons avec des rayures verticales.
Oui, c'est à Costa Nova, on a ces maisons. Ce sont des maisons construites en bois. La plupart construites en bois, surtout les plus anciennes, parce qu'à présent on les fait avec d'autres matériaux, mais on maintient toujours la même forme sur la façade, avec des raies verticales, blanches, et rouges, bleues, vertes, jaunes. Ces maisons sont très très belles, et je pense que dans tout le Portugal, je pense que c'est le seul endroit où on peut voir ces maisons.
Elles ont un nom ?
Palheiros, en portugais c'est Palheiros.
Quelle peut être l'origine de cette décoration de façade ?
Je ne sais pas très bien, mais peut-être l'influence des tentes de la plage, parce que les tentes de la plage qui sont faites en là, elles ont aussi ces raies verticales. C'est peut-être une théorie, mais je n'en suis pas sûr. Parce que ces maisons les plus anciennes, elles étaient toutes rouges.
Aveiro et la Venise portugaise, est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Parce que là, nous sommes près d'un canal. Il y a combien de canaux ?
Il y en a 4 ou 5 en ville, mais je ne suis pas d'accord avec le nom de la Venise du Portugal, parce que je pense qu'il y a une Venise en Italie, il y a la ville d'Aveiro, c'est au Portugal. Alors, je ne suis pas d'accord avec ce slogan.
Alors, on vient de faire un tour de ville, et nous sommes allés dans les quartiers anciens, et bien sûr, on a vu beaucoup, beaucoup de façades, y compris des églises, recouvertes de ces carreaux.
As you wish, parce qu'on est au bord de l'eau, on est ici vers la lagune, l'océan à côté, il y a de l'humidité, et ça conserve très bien les façades des maisons.
Alors, ce qu'on a pu voir, les plus anciens datent du début du siècle, à peu près ?
Bon, sur les façades des maisons, oui, c'est début du siècle. Mais ici en ville, par exemple, à l'église de la Miséricorde, on en a du 19e siècle. Et dans le musée, on pourra voir d'autres beaucoup plus anciens, 15e, 16e siècle.
Et d'où viennent-ils ces carreaux, ces céramiques? Ils sont fabriqués dans la
ici
région?
Ici en ville. Nous avons énormément de fabriques de céramique ici en ville. C'est une industrie très importante dans la région. Et c'est la capitale de la céramique à Véron.
Et par exemple, quelqu'un, un habitant qui n'a pas une façade recouverte de ces carreaux de céramique, il est considéré comme, il est plus pauvre ou il n'est pas portugais ou,
je pense que la plupart des façades n'a pas de carreaux de faïence. Hein. Quand je dis la plupart, je ne sais pas, mais il y a un bon pourcentage de façades qui n'ont pas de carreaux de faïence. Ça, c'est une question de goût.
C'est une caractéristique très forte de l'art portugais. Il y a déjà 100 siècles et qui a marqué d'une forme très importante notre décor d'architecture. C'était même une façon de peut-être masquer la pauvreté de l'architecture portugaise. Alors, on peut l'enrichir. À travers l'emploiement des azulejos, avec une autre caractéristique, c'est le bois sculpté doré, que nous appelons la taglia dorada. Ça se voit spécifiquement dans les terres des églises, mais les azulejos qui ont développé son emploiement, surtout à partir du XVIe siècle. On les voit partout, dans les églises, dans les maisons, dans les couvents et monastères aussi, parce que c'est un moyen économique, pratique, hygiénique aussi, et qui correspondait au goût des Portugais. Et il enrichit les intérieurs à travers des scintillations de la couleur très riche. Surtout au XVIIe siècle, on emploie des larges panneaux de azulejos en imitant les tapis d'Orient, surtout à couleur jaune et bleu. Par conséquent, grand contraste de couleurs, n'est-ce pas? Et à partir du commencement 18e, on les emploie surtout dans la couleur bleue. On dit que par influence des céramiques venues de Chine, et aussi on dit par influence de la céramique hollandaise, qu'on importait peut-être un peu aussi. Mais les Portugais avaient les céramiques chinoises et par conséquent, la céramique ne se développait beaucoup. Les artisans se tournaient surtout pour le fabriquement des azulejos.
Alors d'où vient ce terme? Est-ce qu'on est d'accord sur l'origine?
Oui, c'est un terme d'origine arabe. Et il ne faut pas oublier aussi l'origine arabe de l'azulejo, parce que les premiers azulejos étaient importés de Séville. C'est un trait de l'art hispano-musulman. Et enfin, ils étaient employés en grands panneaux aussi. Et c'est avec les azulejos musulmans que les Portugais ont appris à utiliser son aspect décoratif et pleinement intégré dans l'architecture.
Donc le terme de azur n'a rien à voir?
Non. Il faut penser que les azulejos étaient faits pour être intégrés dans l'architecture. C'était important aussi l'homme qui les fabriquait, l'homme qui les dessinait, le peintre d'azulejos, et aussi l'homme qui les colloquait sur les murs, parce qu'il faut jouer les azulejos avec l'architecture même. C'est surtout dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle qu'on emploie de nouvelles couleurs, telles le vert, le jaune aussi, et surtout le violet. Aussi le marron, on limitait le marbre avec les azulejos. D'un grand décor de type rocaille, dans la deuxième moitié. D'ailleurs, le décor d'azulejos a accompagné l'évolution du goût ornementale dans toutes les époques, même jusqu'à aujourd'hui.
Alors je sais, il y a un musée, le musée à Lisbonne, et retrace tout l'historique.
Oui, il y a à Lisbonne, à Madre de Deus, le musée de l'azolège. Mais l'azolège doit être vu dans l'encadrement par qui il a été fait. Et pas comme une pièce de musée. Et malgré les destructions qui ont été faites, surtout dans nos siècles, il y a encore en Portugal une quantité extraordinaire d'azolèges partout, par tout le pays.
Coimbra.
Tem mais encanto na hora da despedida. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida.
La fameuse porte en fer, la porte férrea, un symbole très fort pour les étudiants de Coimbra. Et nous sommes en train d'entrer dans la vieille cour du palais, maintenant la cour de l'université. Voilà en face la porte du Manuelin de la chapelle. Au fond, la bibliothèque, la tour et cette colonnade, la Via Latina, sont des œuvres de 18e.
Sous cette lumière.
Eh bien, d'après les Romains, on a des vestiges de peuplade. Le point se trouvait dans un point de rencontre de deux paysages tout à fait différents. De là, les montagnes vers l'est, vers l'intérieur, et les plaines jusqu'à la mer. Le fleuve Mondego était un grand fleuve, très profond, très navigable, qui était un moyen de liaison entre la mer et l'intérieur. Coimbra était un port fluvial d'une très grande importance où se faisaient les échanges commerciaux. Venaient les produits, par exemple, de nord d'Europe jusque-là, le sel, le poisson, les produits de mer, les choses qui étaient emportées, et les produits de terre qui venaient du côté de l'intérieur. Il y avait plusieurs bateaux, plusieurs styles de bateaux, et là se faisaient les échanges commerciaux. Après, on a eu le temps des Arabes. Pendant 3 siècles, la ville s'est beaucoup développée. C'est de l'or, le développement hors des remparts vers le fleuve, avec toute cette partie du quartier typique, toutes les rues qui maintiennent les noms des corporations médiévales, par exemple la rue des Semelles, la rue de la céramique, la rue des boulangers, etc. Puis après, au XIIe siècle, Coimbra a été la première capitale du Portugal lors de son indépendance. Évidemment, les rois sont venus à Coimbra. Ici, ils ont vécu. Quelques-uns y sont nés. Les deux premiers sont enterrés en bas, dans le monastère de Sainte-Croix. La grande importance de la ville est venue après le XVIe siècle, lors du siègement définitif de l'université à Coimbra. À ce temps-là, la capitale était déjà à Lisbonne. Le roi vivait à Lisbonne. Au commencement du XVIe siècle, le roi Manuel avait fait une grande remodélation dans le palais royal. Et on a profité de ce palais, au temps du roi Jean le Troisième, pour y installer l'université. Quelques remodélations ont été faites. Une partie de la résidence du roi a été adaptée aux salles de classe. Il y avait 4 facultés à ce temps-là. Maintenant, 7 salles de classe sont les salles de la faculté de droit. Tout seulement, la faculté de droit se maintient dans la partie vieille de l'université. De l'autre côté de la porte en fer sont les nouvelles facultés et la bibliothèque où les étudiants travaillent maintenant. Et maintenant, nous allons commencer par la salle dos capelos, où ont lieu les principales cérémonies académiques.
Aujourd'hui, la tradition universitaire demeure très, très importante à Coimbra. Et combien d'élèves, d'étudiants y a-t-il ?
Eh bien, je crois qu'il y a environ 15 000 étudiants à l'université. Parce qu'il y a aussi les écoles supérieures qui ont une préparation supérieure, si bien qu'ils ne soient pas considérés de niveau universitaire.
Fête du mois de mai, alors en quoi consiste-t-elle ?
Ah bon, ça c'est une fête traditionnelle des étudiants. C'est-à-dire, ça commémore la fin d'une partie des études. Lorsque les élèves de l'université arrivent aux troisième année, c'est-à-dire, ils vont, ce qu'on dit, ils vont avoir son grillo. Ça c'est un robin très court de la couleur de l'université qu'ils misent sur sa bague, comment dit-on, sa serviette. Hein? Bon. Et qu'ils portent toujours comme démonstration de sa position, son rang dans l'université. Dans sa fête, tous les années il y a la fête, ces gens-là vont faire brûler les rubans. C'est l'appel en portugais, queima das fitas. Et les fêtes, ce sont les fêtes de queima das fitas. Il y a plusieurs manifestations artistiques, sportives, et surtout de jeunesse, et parfois un peu dehors de la jeunesse, parce qu'on... On mélange les anciens, s'ils viennent aussi pleurer, les soldats, etc. Vous comprenez ? Ces fêtes des étudiants, c'est toujours comme ça, avec ces différences. Bon, ils brûlent sa petite ruban et ils vont mettre ces larges rubans. Ça veut dire qu'ils sont arrivés aux dernières années. Bon, aux dernières années, c'est la même serviette avec 8 rubans. À côté, c'est le ruban de la fiancée, le ruban des pères, des amis, des professeurs, etc. Ça, c'est une tradition qui se continue. Les étudiants font beaucoup de manifestations culturelles, artistiques. Par exemple, il y a le Sarau, où tous les organismes de l'académie qui font, par exemple, la musique, chorale ou non chorale, pour exemple, le chorale des Orfeons, ou la Tuna, fait de la musique, mais il y a aussi le GFA qui fait du folklore et de la musique populaire. Il y a le théâtre, le SITAC, le Turc, les théâtres des étudiants de l'université de Coimbra, le théâtre expérimental, etc. Beaucoup de manifestations de ce genre-là. Le fado partout, toujours. Ça commence même avec la grande et monumentale sérénade dans l'escalier de la Sé Velha, avec la place devant pleine, c'est un œuf, on ne peut pas bouger. Eh bien, il y a d'autres, par exemple, on boit beaucoup dans ce temps-là. Et la fête, la principale, c'est que les étudiants avec les petits rubans montent jusqu'au haut de l'université. Et là, ils font dans un cache-pot, ils brûlent ses rubans et ils mettent dehors ses rubans larges, fitas largas, on dit. Ils jouent avec les professeurs, avec les choses de l'État. Eh bien, bon, on s'amuse.
Et monte. Y por todos no van a nada,
todo.
Y no van a nada,
todo.
En toco todo que quede se fría,
fría.
Fría, fría. Frí,
frí.
Frío,
fró.
Frío,
fró.
Fró,
fró,
frí, fró,
fró.
Ali, quali, quali, qua. Ali, quali, quali, qua. Chirimita, ta, ta, ta. Chirimita, ta, ta, ta. Hurra, hurra, hurra.
La terrasse.
Et voilà la transition vers l'intérieur, les montagnes, vers la mer, les plaines. Et justement ici, ça, où se trouvait le port fluvial, la vieille cathédrale du XIIe siècle, avec son cloître, le premier, la première construction du gothique qui s'est faite au Portugal après les monastères cisterciens. En haut, l'église du collège des Jésuites, qui est l'actuelle cathédrale. Eh bien, des collèges, je peux vous parler parce que après l'installation définitive de l'université à Coimbra au XVIe siècle, maintes de collèges se sont bâtis ici parce que toutes les ordres religieuses voulaient que leurs étudiants fréquentaient l'université. À ce temps-là, l'abbé de Sainte-Croix, qui était un des amis du roi Jean III, a donné une partie des terrains de la ferme et la rue de Sainte-Sophie s'est ouverte et dans cette rue se sont bâtis plusieurs collèges. Et voilà en bas le grand bâtiment avec la tour des cloches. Il s'agit encore d'un autre collège où est siégée maintenant la faculté de psychologie. En bas, la tour, c'est la tour qui est tout près de la porte que nous venons de passer, c'est la tour de Al-Medina. Maintenant, c'est l'archive historique de la ville. Ce fut la mairie pendant quelque temps.
Et pourquoi ce terme, Al-Medina?
Al-Medina de la langue arabe, la ville Al-Medina. Parce que les Arabes y ont vécu pendant 300 d'années. Ils sont arrivés 711, ils y sont restés jusqu'à 1064. Pendant 3 siècles, on a eu une grande communauté mozarabe qui a beaucoup développé la ville et qui a beaucoup influencé soit l'art sur le point de vue de commerce, d'industrie, les arts. Tout cela a été beaucoup influencé par les Arabes.
Et le terme même de Coimbra, est-ce que cela signifie quelque chose? Est-ce qu'il y a
Eh bien, Coni, Coni, c'était un peuple, les Coni, Briga, une peuplade fortifiée. Coni, Briga était la terre, le bourg des Coni. Et puis après, Coni, Briga, Coimbra. On a hérité le nom parce que lors des invasions des barbares, la ville de Coimbra a été détruite. L'évêque s'est enfui dans la paroisse la plus prochaine, Eminium. Et avec le Eminium s'est perdu, le nom s'est perdu. La ville Coimbra est morte et nous avons hérité le nom aussi. Et maintenant, on est en train d'arriver à la chapelle. Voilà la porte, les fenêtres, tout cela de ce style manuel, hein, dont les personnes ont été si fières au XVIe siècle. C'est la fin du gothique, toute cette décoration végétaliste qui donne cette richesse, cette folie de décoration. On était justement au temps des découvertes et on a comparé cette colonne tordue aux cordes. On a par exemple des motifs vraiment maritimes que dans la fenêtre du couvent de Christ à Tomar, où l'on trouve une fenêtre qui est décorée avec des voiles. On dirait le mouvement des voiles, du tissu des voiles.
Art manuelin, parce que cet art, cette phase finale du gothique est commencée à l'époque de Manuel le Fortuné. Et nous avons eu ici au Portugal, et aussi dans des territoires d'outre-mer, une quantité incroyable de constructions. Le terme vient du roi Manuel, qui a vécu à la fin du 15e et au commencement du 16e, qui a gouverné le Portugal à partir de 1495 jusqu'à 1521. Et ça a été pendant son gouvernement qu'on a développé ce qui n'est plus que le gothique final, que le gothique terminal, si on veut dire le spätgothique. C'est une forme qui au Portugal a eu un peu plus de fortune que dans des autres endroits, dans d'autres pays, et qui pratiquement a couvert tout le Portugal, pas seulement ici en Europe, mais aussi au Nord-Afrique, au Maghreb, dans les îles atlantiques, et est arrivé même en Amérique, surtout en Mexique et aussi à l'Inde, où on a encore des exemples tardifs, mais des exemples surtout à Goa et aussi à Cochin.
Alors, comment peut-on caractériser cet art pour quelqu'un qui n'en a jamais vu ?
C'est sur une base, une structure du gothique tardif, du flamboyant si on veut. On ajoute une décoration très chargée, c'est-à-dire surchargée et populaire. On a profité la grammaire du gothique international et tous ces feuillages, toutes ces décorations végétalistes, naturalistes, mais ici on a surchargé cela. C'est la liaison de cette explosion de construction avec les profits de l'exploration. On ne pourrait pas faire ces bâtiments si on n'avait pas gagné l'argent à l'autre mer avec le commerce, avec les navigations. On peut dire que les Manuelins doivent à l'Orient, doit à la navigation, le poivre avec lequel on a payé les ouvriers.
Quels sont les principaux exemples que l'on peut citer au Portugal d'art manuelin ?
Si on prend pour l'art manuelin les bâtiments qui ont été faits à l'époque de Dom Manuel, évidemment on peut dire les couvents, le monastère du Christ, l'ordre du Christ à Tomar, le monastère des Jérômes tout près de Lisbonne, aujourd'hui évidemment dans la propre ville de Lisbonne, à Blain, la tour défensive, une tour tout au fond du monastère de Blain, ici Sainte-Croix, ici à Coimbra. Mais ce sont surtout des petits bâtiments qui nous intéressent et c'est dans les petits bâtiments qu'on voit plus cette caractéristique populaire et disons universelle en relation au Portugal.
Et ici nous arrivons dans cette
bibliothèque. La bibliothèque, le roi Jean V a ordonné le bâtissement de cette bibliothèque. Eh bien, ce roi suivait religieusement les idées de Louis XIV, la grandeur, la richesse, tout cela, vous verrez, toute la grandeur d'une bibliothèque pour une école.
Et la statue que nous voyons ?
La statue que nous voyons, c'est la statue du roi Jean III, celui qui a donné le palais au XVIe siècle.
Alors, va-t-on pouvoir entrer dans cette bibliothèque ? La porte est impressionnante. La porte est superbe. On pénètre entre les colonnes du savoir.
Ouais.
Alors qu'est-ce qui est écrit au-dessus ?
Il y a une inscription latine.
Latine qui dit
ouais, qui parle à propos du travail,
oui, la sagesse.
Ouais.
Moi, j'arrive pas à déchiffrer.
La valeur du travail et de la sagesse, je crois. Ça. Eh bien, maintenant je crois que c'est mieux d'ouvrir les yeux. Moi, je me sens petite pour vous en parler. Toujours la chinoiserie dans la décoration. Voilà, les portes avec les rideaux. Il s'agit de petits coins de travail pour les professeurs. Voyez, les dessins tout à fait chinois. Les tables, ce travail de marqueterie si portugais, tout ce travail de combinaison de couleurs des bois et l'or, toute cette folie de décoration.
Combien de volumes abrite cette bibliothèque ?
Eh bien, on voit 30 000 volumes, mais on dit que l'ensemble des volumes de la bibliothèque est d'environ 1 million de livres. Les plus anciens sont deux Bibles, manuscrites évidemment, une hébraïque et l'autre latine. Il y a beaucoup de manuscrits de très grande valeur. Et puis après, la presse. Les rois étaient toujours informés de ce qui se publiait en Europe. Et ils achetaient les livres
pour que les étudiants n'avaient pas besoin de s'en aller dans d'autres pays. Eh bien, voilà, la structure des trois salles est à peu près pareille. Il n'y a que la différence des couleurs. Le vert, le rouge, le noir, toujours le décor de la chinoiserie, les plafonds en perspective, tous des allégories, et toujours la folie décorative de bois et feuilles d'or. Par exemple, là, il ne s'agit pas de marbre, c'est du bois avec une décoration qui fait une imitation de pierre. Matin, la chèvre sonnait. La chèvre, c'est la cloche de la tour de l'université. Pour le matin, elle sonnait pour appeler les étudiants. Allez, vous avez des classes. Et après-midi, elle sonnait vers 6 heures pour les remettre chez eux.
Ici, loin du soleil, que ferais-je d'autre, sinon chanter le souffle qui me chauffe, comme un plaisir fatigué qui s'assoupit, ou comme un détenu qui accepte sa peine. Mais dans ce faible chant, il y a une autre voix qui veut se libérer de la sourdine, comme une rose cristal au plus profond de la mine, ou une promesse de pain qui se dégage des meules. Un autre soleil plus brillant donnera une nouvelle harmonie aux accents de mon chant. Et dans l'ombre où je marche, à tous je dirai que la nappe de lumière est déjà annoncée. José Saramago.
Visiter une posada, c'est déjà plonger dans l'histoire. Bon, les posadas, c'est un réseau de l'État avec 30 établissements sur le continent, deux à Madère, qui font en total à peu près 600 chambres dans le pays. Et ce réseau a été créé aux années 40 avec l'objectif de permettre aux étrangers qui arrivaient au Portugal, surtout dans certains ex-routiers, ou dans certaines entrées du pays par route, de donner un accueil spécial, un accueil exemplaire du point de vue touristique, du point de vue hôtelier. Encore aujourd'hui, les posadas sont des établissements hôteliers qui, j'oserais dire, à l'échelle humaine. Les posadas sont intégrées dans l'esprit, les traditions de chaque région, elles sont localisées. Soit du point de vue d'architecture, du point de vue de décoration, mais aussi du point de vue de la gastronomie. Vous savez que même pour le portugais, c'est d'aller dans une posada pour y manger. C'est pas seulement pour se loger tranquillement, enfin dans des sites isolés ou dans une ambiance historique, mais aussi surtout pour manger.
Au Portugal, on ne peut pas dire exactement qu'on a une gastronomie nationale. Alors, on a des produits qui sont nationaux, comme la morue, comme l'agneau, comme le porc. Mais chaque région a ses caractéristiques. Il y a des plats qui sont nationaux, comme par exemple la bouillabaisse. C'est un plat national, mais chaque région a des poissons spécifiques qu'ils utilisent dans la cuisson. Alors, il y a aussi notre pot-au-feu, si on peut le dire, le cuisine portugaise, que c'est aussi un plat national, mais chaque région présente ses produits et les meilleurs dans chaque saison.
Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer comme plat? Déjà, peut-être on peut commencer par le menu, parce que là, nous sortons de table, nous avons somptueusement déjeuné. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à ce repas?
Alors, vous avez trouvé sur table ce qu'on appelle les œufs verts, bon, comme apéritif, et aussi les petits poissons de la ferme, et aussi les fameux beignets de morue. Petit poisson de la ferme, il s'agit donc des haricots verts plats et ils ont subi une friture avec une pâte à friture. Alors, on appelle des poissons de la ferme parce qu'ils ont le format, la taille d'un petit poisson, mais ça vient de la terre. Et après, vous avez mangé les beignets de morue, les fameux pechelinhos de bacalhau. Alors, c'était comme entrée. Après, vous avez mangé de la sorda de marisco. Alors, ça veut dire, c'est un mélange, alors c'est presque une soupe, un passé séché de pain qui a été bien mouillé avec du fumé des poissons et des crustacés qu'on a utilisés. Et après, garni des fruits de mer. On a utilisé des crevettes, on a utilisé des palourdes et on a aussi utilisé des vongoles. Il y a aussi une petite herbe, que c'est le coriandre, très très typique chez nous. Alors, ça c'est un plat qu'on peut dire que ça reste depuis le 12e siècle, après qu'on a chassé les Arabes de chez nous. Alors, ce sont les Arabes qui mangeaient beaucoup de pain mouillé, alors qu'on l'a gardé, par les Arabes ont été chez nous jusqu'au 12e siècle. Et on continue avec notre menu, après le sorda de marisco, vous allez manger une chanfana. Une chanfana, c'est fait selon la tradition avec de la chèvre vieille. Mais maintenant, même chez nous, on ne fait presque plus. On prend l'agneau ou le brebis pour le faire. Et bon, c'est un plat de fête, d'habitude de fête. Il a des origines au centre du pays, plus précisément à Coimbra. Il s'est répandu dans toute la région centre du pays. Les Portugais, ils n'aiment pas encore beaucoup terminer le repas avec un fromage. Pour les Portugais, il faut un sucré ou alors un fruit. Vous avez mangé ce qu'on peut traduire comme une soupe dorée, que c'est presque un dessert national et qui se fait de deux façons. Ce qu'on appelle bon, la façon riche et la moins riche. Alors ce dessert, il peut être fait à partir du pain, ça serait la moins riche, ou à partir d'une génoise riche, c'est ce que vous avez mangé. Alors qu'on mouille avec un peu de porto, et après on fait une pâte sucrée avec seulement du jaune d'œuf qu'on met dessus et on décore avec des amandes. Mais les sucrés chez nous, ils ont une grande tradition, surtout à partir du 16e siècle jusqu'au 18e siècle. Alors avec les découvertes portugaises, on a découvert le Brésil et Angola, alors on commence à recevoir du sucre à bon marché. Alors les Portugais commencent à exploiter l'industrie du sucre. Alors, et c'est développé dans les monastères, dans les convents, parce que les moines, ils ne payaient pas d'impôts pour travailler le sucre. Alors, ils pouvaient le faire. Alors, l'industrie du sucre, alors le traitement des desserts du sucre, s'est bien développé jusqu'au 18e siècle, où la loi, il y a un premier ministre portugais qui a expulsé les jésuites et après tous les ordres religieux. Alors, la pâtisserie portugaise s'arrête au XVIIIe siècle. Et maintenant, on essaye de faire le retour aux origines. Et la bonne pâtisserie portugaise, elle devient toute des moines ou des convents. Alors, c'est pour ça que Portugal, tous les noms que vous trouvez, ils ont quelque chose par rapport au ciel. Ah, vous avez par exemple, une soupe dorée, vous avez les lardons du ciel, vous avez le ventre des moines, poitrine de moine.
C'est le paradis sur terre.
C'est le paradis sur terre. Bon, oui.
Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem. Desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente.
Un automne portugais. Une émission de Jacqueline Kellen.
à Barcelos avec Idolina Nerj. À Viana avec Antonio Cândido. À Porto avec Bárbara Pinto. À Aveiro avec Diamantino Dias e Nelson Correia Borges. À Coimbra, Maria Antónia Cardoso, José Manuel Pereira de Oliveira e Pedro Dias. Ainsi que Nuno Jardim Fernandes e Virgílio Gomes. Texte lu par Claude Berman et Anna de Carvalho. Prise de son Alain Claudel. Mixage Agnès Varnier, François Caillard. Réalisation Christine Berlamont. Nous tenons à remercier pour leur aide efficace et chaleureuse l'Office du tourisme portugais de Paris.
E a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouco chinho para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho, o caldo verde, verdinho, a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas do as duas rosas no jardim, o São José das Leixos, mais o sol da primavera.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 janvier 1989. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Se dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ser sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer plano do que virá depois. O meu coração pode amar pelo